La première, 17h-18h, Galaxy BD, Thierry Belfoy.
Bienvenue dans notre vaisseau spatial inter-iconique. Galaxy BD va se promener aujourd'hui entre le Japon et la France en parcourant les pages de Yon, un manga 100% francophone, puis entre littérature et bande dessinée avec Le Choix de Sam, une BD 100% belge avec de vrais morceaux de romans jeunesse néerlandais dedans. Camille Broutin et Nicolas Pitz sont nos invités. Et puis Gorian Delpature sera avec nous. Il a mis son casque de spéléo et fouillé les archives de la RTBF pour en exhumer une très belle interview de Marcel Gottlieb, l'homme qui a enchanter l'humour dans les années 70.
Galaxy BD
sur la première.
Et bonjour Camille Broutin.
Bonjour.
On vous a connu grâce à la série Fille unique, 5 albums, puis paru chez Dargo sur un scénario de BK, qui est en réalité un duo, hein, B pour Bertrand et K pour Caroline. Alors pour votre premier ouvrage en solo, vous nous proposez un manga, Yon, on va en parler dans un instant, mais tout d'abord, est-ce que pour commencer cette émission, vous allez nous proposer un manga également?
Oui.
Oui. Votre recommandation du jour, c'est ?
Ce serait L'homme qui marche de Jiro Taniguchi.
Alors dites-nous un peu plus pourquoi ce choix de L'homme qui marche et de Taniguchi, qui est peut-être le plus européen des mangaka ou le plus franco-belge des mangaka.
J'aime beaucoup les artistes en général qui sont au croisement de cultures. Je trouve que c'est très enrichissant. Donc c'est pour ça que j'aime cet auteur spécifiquement. Et le choix de L'homme qui marche, c'est la première œuvre que j'ai lue de lui, donc qui garde une place dans mon cœur. Et c'est l'ambiance que j'aime beaucoup, des dessins et le graphisme.
C'est un graphisme qui doit en partie une de ses influences côté francophone à Mebius et même à Hergé.
Oui.
Ce sont aussi des références pour vous?
Oui, je les aime tous les deux beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Jiro Taniguchi.
Si vous aviez dû choisir un Hergé, vous auriez choisi quoi?
Ah, c'est difficile. J'ai adoré tous les Tintins.
Donc, c'est vrai?
Un Tintin, mais choisir lequel, ce serait difficile.
De votre côté, Nicolas Pitz, vous allez vous aussi tout à l'heure parler de votre nouveauté. Hein. Vous avez entamé il y a quelques années un travail d'adaptation de romans jeunesse en BD. Le dernier s'appelle Le Choix de Sam. Alors, quelle est la bande dessinée que vous nous proposez en ce début d'émission?
Je vais parler de Île déserte de Xavier Coste. Et en fait, ce qui m'intéresse avec Xavier, donc que tu as pu à la Foire du Livre le voir et le rencontrer, c'est que c'est un personnage que je vois tout le temps dans des trains, en fait. Et c'est un auteur que j'adore parce que...
C'est l'auteur, en fait, qui est choisi, c'est pas sa BD.
C'est l'auteur d'abord, parce que je l'adore. Je trouve que c'est très bizarre. On a une relation très étrange. Et en fait, on lit mutuellement nos bouquins depuis des années. Et en fait, on n'en parle jamais. Et du coup, celui-ci, je l'ai lu, Île déserte, et j'ai trouvé ça super beau. Parce qu'on parle toujours technique ensemble. On est des espèces de techniciens. Et lui, je sais qu'il adore la matière, il adore travailler tout ça. Et en fait, ici, c'était son boulot, c'était cette réalisation-là qui me plaisait parce que justement, je retrouvais tout ce qu'il me disait dans les trains.
Alors, je pense qu'il doit y avoir un truc avec Xavier Coste parce que moi-même, c'est quelqu'un que je rencontre fréquemment depuis ses tout débuts à des endroits totalement improbables et même en interview avec un autre auteur dans Paris, tout à coup, qui passe avec une poussette, c'est Xavier Coste. Donc, il doit avoir un truc. Alors, Xavier Coste, quand même, c'est pas le seul auteur de cette bande dessinée Île déserte. Il y a un nom connu au générique, c'est...
Oh mon Dieu. Non, je ne le dirai pas. C'est Xavier Coste,
c'est Antoine de Caunes. Et donc, ça raconte l'histoire de Georges de Caunes, le père d'Antoine de Caunes, qui part il y a très longtemps, dans les années 60, alors que son fils a 8 ans à peine, pour un an sur une île déserte. Et donc, l'idée de cette bande dessinée, c'est de revenir au moment où Antoine de Caunes a lui-même enfin ouvert les carnets de son père, les carnets intimes de son père sur cette île, de revenir sur cette expérience, cette histoire, avec son regard aujourd'hui sur l'enfant qu'il était, le père qu'était son père à ce moment-là, à la fois personnage public et privé. C'est absolument magnifique. Merci.
Très Nicolas. Belle découverte, hein. Franchement, ouais. Magnifique.
On va revenir à votre livre, le choix de Sam, tout à l'heure. On va commencer avec Camille Broutin et le livre Yon.
Galaxy BD.
Une sonnerie dans une école, une scène de semi-panique, voilà qui résume les éléments de Yon, l'histoire dont vous nous proposez le premier volume, Camille Broutin. Et s'il y a scène de semi-panique, eh bien c'est parce que la sonnerie est un peu particulière hein, dans votre livre. Elle n'annonce pas un simple exercice incendie ou la récréation, qui serait encore plus basique, mais eh bien un ordre d'évacuation. Et cet ordre, il convient de l'appliquer très rapidement.
Dans les 3 minutes.
Dans les 3 minutes. Mais pourquoi donc?
Pourquoi 3 minutes?
Ouais.
J'ai fait quelques recherches de combien de temps devrait durer une évacuation pour qu'elle soit efficace. Mm-hmm. Donc, en considérant la taille du bâtiment et le nombre d'élèves, je suis arrivée à 3 minutes à peu près. Ça me paraît court, mais j'ai l'impression que dans les normes de sécurité, on arrive à peu près dans ces eaux-là.
Mais c'est quoi comme danger? Moi, je le sais, j'ai lu la bande dessinée, mais dites-le à celles et ceux qui nous écoutent.
C'est un danger surnaturel. Mmh. Des billes qui tombent du ciel, de petites billes, comme de la grêle.
Ouais, des grosses boules de grêle, hein, presque comme des balles de tennis.
Balles de ping-pong, on dirait.
Ping-pong, ouais, voilà. Alors, toute l'école doit évidemment être évacuée dans les temps, dans ces fameuses 3 minutes. Et on se rend compte très rapidement que ce n'est évidemment pas le cas, sinon il n'y aurait pas d'histoire. On va suivre un personnage, puis deux, puis un peu plus. En fait, il y a finalement pas mal de monde qui est passé à travers le tamis.
Oui, par rapport au nombre d'élèves dans le bâtiment, c'est pas beaucoup. Mais finalement, qu'on pense être seul, ça fait beaucoup.
L'idée, c'était quoi? C'était de proposer un récit fantastique qui fasse une sorte de miroir par rapport à ce qui pourrait nous arriver.
C'est plutôt métaphorique, au final. Mais la métaphore est difficile à expliquer sans raconter toute l'histoire.
Ça, c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire, c'est de ne pas déflorer le côté thriller de Yon, parce que c'est une bande dessinée qu'on ouvre et peu à peu, on se sent de plus en plus pris par les raies de votre histoire. C'est un véritable piège. Yon m'a fait penser, moi, à L'École emportée, hein, qui est un manga paru dans les années 70 et que Glénat avait republié, je pense, fin des années 90 ou début 2000 en 7 volumes, et qui proposait l'histoire d'une école qui quitte la Terre et qui se retrouve dans l'espace, sur simplement le périmètre même de l'école. Il n'y a rien d'autre que ce bout de Terre qui existe dans l'espace à un moment. Et on observe au microscope ce que devient cette communauté qui est à la fois une communauté d'adultes et d'enfants. Et en réalité, dans L'École emportée, ce qui était génial, c'est de montrer que seuls les enfants s'adaptaient. Vous aviez lu ça?
Alors, j'ai lu le premier tome, parce qu'on m'a dit que ça y ressemblait, donc je suis allée le chercher. Et j'ai beaucoup aimé.
Gorian.
Oui, Camille, vous parlez de votre bande dessinée comme une bande dessinée symbolique. Et c'est vrai que c'est l'histoire dans cette école très inquiétante. Hein. On est dans un internat avec des bâtiments un peu abandonnés. Ça fait un peu peur. Et on suit Margot, qui est le personnage principal, qui est présentée comme une jeune fille un peu morne. Mais l'ambiance qui se dégage des pages et des décors de votre école est quand même très menaçante, très inquiétante. Vous n'avez pas aimé, vous, votre jeunesse à l'école? C'est un peu de votre jeunesse dont vous parlez? L'école, le milieu un peu dangereux?
Oui, c'est sûr que je m'en inspire de mon expérience au lycée et au collège. C'est pas le sujet à proprement parler, mais ça m'a aidé à construire le décor de l'histoire, oui.
Vous n'avez pas aimé alors votre passage à l'école? C'était pas chouette?
Non, c'était terrible.
Alors moi, je pense que vous devez faire un duo avec Jim Bishop, hein, parce que
on l'a reçu il y a quelques
semaines et sa bande dessinée s'inspire aussi d'un passage très compliqué à l'école. Il y a une chose que je voulais quand même souligner, c'est qu'on n'en a pas parlé encore et c'était pas la peine de lire d'emblée. On va rentrer dans la forme de cette bande dessinée. La forme, c'est celle du manga. Et c'est celle du manga dans à la fois le format, un format manga peut-être un tout petit peu plus grand quand même, on est dans un grand roman graphique ou un manga chic de chez Saka ou voilà, c'est le manga un peu plus grand, et en même temps c'est de droite à gauche, vraiment vous épousez totalement les codes. Pourquoi ce choix, vous qui avez fait l'école des gobelins, donc une école d'animation, qui avez fait un stage dans un studio d'animation japonais, avez failli travailler pour l'animé au Japon?
Le choix, c'était surtout par rapport à mes envies d'enfance. Quand j'étais petite, je voulais écrire un manga. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Et oui, je voulais le faire à fond, comme les mangas que j'aime lire.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui? Parce que vous n'êtes pas la seule, notamment depuis cette rentrée d'hiver. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs auteurs qui commencent à utiliser le manga tel quel. C'est-à-dire vraiment comme un outil, tout simplement, en disant « moi, j'ai grandi avec ça. Pourquoi ne pas raconter du franco-belge, mais avec les codes du manga ?»
J'imagine que la réflexion est différente pour chaque auteur. Personnellement, c'est ce qui m'a fait aimer le dessin, donc c'est ce qui me vient le plus naturellement quand j'ai une envie de dessiner ou d'écrire. C'est le premier format qui me vient à l'esprit, et un manga.
Pourtant, vous avez un univers qui est un univers qui pourrait à la fois être celui de certains mangas, mais en même temps qui a un aspect très cinématographique. On est sur des références cinématographiques plutôt américaines, non?
Si c'est le cas, c'est intéressant parce que je ne lis pas beaucoup de comics et je ne pense pas regarder beaucoup de films américains. Mais...
Je pense que Gorian Delpature, qui est un grand fan de Stephen King, dirait que...
Oui, il y a un petit côté Stephen King, mais aussi un petit côté des films de John Carpenter, avec ses personnages enfermés dans un endroit. C'est une sorte de gigantesque huis clos que vous nous présentez. Il y a un peu ce style de film fantastique. Et du point de vue du dessin, vous parliez tout à l'heure de votre amour des bandes dessinées de Hergé. Moi, je ne suis pas un spécialiste des mangas, mais est-ce que votre manga à vous est un mélange entre les mangas traditionnels et une sorte de dessin franco-belge à la Hergé?
J'espère que c'est le cas. Mmh. C'est le genre de dessin que j'aime. Et c'est vers quoi j'ai envie de tendre avec mes dessins. Et puis, je pense que ce sont mes références. Donc forcément, ça va se retrouver dans le mélange dans mes dessins, au final.
J'ai lu que vous aviez grandi avec des mangas comme Death Note, qui sont des grands classiques de Kana, qui étaient à votre grand frère, si je suis bien renseigné.
C'est bien ça, oui.
Ouais. Là, vous rendez un tribut ou simplement vous dites « c'est mon langage ».
Oui, en partie, c'est mon langage, je pourrais dire ça. C'est la source de ma passion, donc c'est plutôt une émotion plutôt qu'un langage, j'ai l'impression, le manga, pour moi en tout cas.
Ion sera une tétralogie, donc on est quand même sur une histoire relativement longue. Ici, vous avez joué la carte du manga, on est à peu près sur 200 pages. Est-ce que vous allez tenir le rythme du manga?
Alors ça, c'est la grande question. Alors, j'espère que oui. Le but, c'est d'y arriver quand même. Après, je découvre le rythme au fur et à mesure que le travail avance. Je découvre, par exemple, qu'il ne faut pas prendre de pause entre les tomes. Ça aide quand même au rythme d'enchaîner. Mais ouais, je découvre au fur et à mesure.
On peut faire 200 pages comme ça tous les combien de temps?
Alors, je suis en train de dépasser les 200 pages. Et je me demande, plus ça va et plus les tomes ont de pages. Donc...
Ils vont être épais, oui. Très épais à la fin.
Peut-être, c'est possible. Bon, déjà, si la maison d'édition est d'accord, on va voir. Mais j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Et oui, 200 pages à peu près, normalement, c'est 6 mois par tome. 2 tomes chaque année.
C'est pas encore le rythme japonais, mais on se rapproche.
Oui.
Japonais, c'est tous les 2 mois, mais eux, ils sont enchaînés à leur table. Gorian.
Camille, il paraît que vous dessinez en musique. Alors, quelle musique écoutiez-vous en dessinant votre manga?
Alors j'en ai une que j'ai écoutée au début et que j'écoute de temps en temps pour me remettre dans l'ambiance. C'est Heaven Up There de Palace. Mais j'ai toute une playlist pour Yon avec une musique qui me plonge dans une scène.
Vous aimez bien les Rolling Stones, vous avez décidé.
Oui. Il n'y aurait qu'une seule chanson d'eux qui me fait penser à Yon.
C'est laquelle?
Street Fighting Man.
Ah oui.
Mais c'est vrai que je les aime beaucoup en général.
Vous parliez de métaphores tout à l'heure. On va essayer de ne pas déflorer le contenu de ce livre qui est vraiment un contenu haletant. On est pris dans votre histoire. Les personnages sont quand même très typés, très particuliers. Et votre personnage principal, Margot, laisse en penser qu'en fait, une des métaphores, c'est que pour survivre, il faut sortir quelque chose de soi.
Oui, c'est sa métaphore à elle, oui.
Ouais. Vos personnages, vous les avez créés comment?
Margot, c'est le personnage principal parce que c'est elle qui m'est venue en premier. Parce que c'est ce genre de personnage qui me vient le plus naturellement. Je lui ai donné beaucoup de moi. Les suivants, il y en a quelques-uns qui me sont venus de camarades de classe. Mais plutôt de camarades de classe d'école d'art. Donc pas vraiment du lycée finalement. Et après ça s'est fait un petit peu naturellement.
Lorsqu'arrive un événement comme celui-là, qu'on échappe à la possibilité de s'exfiltrer par rapport à un danger, les relations de pouvoir sont au centre de tout. Ça vous intéresse?
Oui, j'aime bien les dynamiques de groupe. J'ai jamais vraiment réussi à en faire partie, donc j'aime bien les étudier.
Vous voyez comme une observatrice à la loupe d'un petit monde sociétal que vous avez choisi de mettre sous votre loupe, sous votre microscope?
Oui, c'est ça. Et j'essaye de voir où elles vont aller. Je le sais pas. Je le sais dans les grandes lignes, mais c'est une façon d'expérimenter sur les types de caractères, de quel genre de personne j'aimerais être.
Une histoire comme celle-là vous aide à comprendre le monde ou au contraire à délasser le monde?
C'est une façon de distiller ce dont je fais l'expérience et d'essayer de le comprendre sous une autre forme et peut-être avoir des réponses d'une manière un petit peu détournée. Chaque personnage est symbolique de quelque chose dont je fais l'expérience et peut-être en les voyant se dénouer dans l'histoire, je vais pouvoir retranscrire ce que ça voudrait dire dans le vrai monde et trouver des réponses à mes questions.
Merci Camille Broutin. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour vous. Yon, passionnant, hein, vraiment, premier volume de ces quatre futurs volumes de toute l'histoire, premier volume de cette tétralogie en manga, donc de droite à gauche et en format manga, dans la collection ou sous le label Combo qui appartient aux éditions d'Argo. Dans un instant, on va passer à la chronique de notre ami Gorian.
Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques.
Et Gorian Delpature, ben, dans cette émission, il a pour habitude de chercher, de fouiller les vieux fonds d'archives de la RTBF et de chercher des interviews qu'on a un petit peu oubliées et des auteurs qu'on n'a pas forcément oubliés. Là, c'est le cas de Marcel Gottlieb. Il est inoubliable.
Inoubliable, hein, Thierry. Et j'ai déniché pour vous une interview de Marcel Gottlieb diffusée en décembre 1982 dans l'émission Radio Rencontre. À ce moment-là, le créateur de Guéluron, de Super Dupont et le fondateur du magazine Fluide Glacial a 48 ans. Et comme souvent hein, dans ce genre d'entretien, il nous parle tout d'abord de ses tout premiers dessins, de ses dessins d'enfance. On écoute Marcel Gottlieb.
Vous savez, on gribouille dans les marges des cahiers. Ça, c'est le cliché traditionnel qu'on utilise. Tout petit, déjà, dans les marges de mes cahiers, etc. Toute biographie d'un auteur de bande dessinée commence comme ça. Non, en fait, j'avais cette habileté à faire des petits dessins, même à l'école, effectivement.
Des caricatures ?
Non, pas vraiment. Alors là, justement, vous tombez sur la seule chose dans laquelle je ne me sens pas à l'aise. La caricature avec ressemblance, ce n'est pas tout à fait mon truc. Non, c'était le dessin comique, le dessin d'humour. D'ailleurs, l'un de mes premiers maîtres a été Franquin. Et donc, tout naturellement, moi, tout enfant, je voulais dessiner sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Dans mon esprit, ça se coupait même avec le dessin animé. À un moment donné, je disais, plus tard, je ferai du dessin animé quand j'ai vu... Blanche-Neige et les Sept Nains ou des choses comme ça. Bon, puis après, il a fallu se rendre à l'évidence, à savoir que le dessin animé, c'est quand même beaucoup plus dur et très important au point de vue investissement, alors qu'il est tellement plus facile de prendre une feuille blanche, un crayon, une gomme et de l'encre, et puis éventuellement des modèles sur lesquels on peut copier au début, puisqu'il n'y a pas d'école, les modèles étant Franquin, enfin tous les grands de l'époque, et d'essayer de faire donc de la bande dessinée.
Et il va y arriver, notre jeune Marcel. En 1962, il a 28 ans, il est engagé par l'hebdomadaire de BD pour enfants Vaillant, et on lui impose une série, Nanar et Jujube, qui mettait en scène un petit garçon et un renard, et c'est dans cette série que Gottlieb va imaginer un de ses personnages les plus célèbres, le chien triste Guéluron.
Il est arrivé fortuitement, au hasard d'un gag, j'avais besoin d'un chien, mais de façon inconsciente, j'ai placé là, on pourrait dire, un personnage que je sentais un peu mieux que les autres, parce qu'il venait de moi. Bon, il est directement inspiré, et très évidemment, du Droopy de Tex Avery, et en même temps, il correspond tout à fait à mon tempérament, je pouvais le faire évoluer de façon moins...
Il est sinistre,
moins...
hein ?
Oui. Oui, bien sûr, c'est ce que j'adore, moi. Surtout dans le comique. Et il est pas sinistre, non, sinistre, c'est pas le mot. Simplement, oui, il est
pas
comme
très éveillé,
Buster Keaton.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, il est endormi. En fait,
il a une vie intérieure très riche, très profonde. Mais très intérieure.
Tellement intérieure qu'elle est presque inapparente. Mais en même temps, il fait des choses que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire ce grand flegme, cette tranquillité, cette quiétude... Cette faculté de dormir, tout le contraire de moi qui suis un insomniaque, qui suis un angoissé, un nerveux et tout.
Gottlieb crée donc Guéluron, hein, son contraire dans Vaillant, une revue pour jeunes lecteurs. Et puis en 1965, il va dessiner une nouvelle série dans une revue pour plus grands, Pilote. Et c'est là qu'il va dessiner sur des scénarii d'André Goscinny, Les Dingos Dossiers, une BD d'actualité sans héros.
C'était d'ailleurs la première... bande de ce type hein, qui était... enfin, maintenant, quand on la relit, elle est un petit peu surannée, disons. Mais lorsqu'on l'a faite, il n'y avait pas eu de bande de ce type. Jamais. Il y avait eu ça dans Mad. Il se trouve que Goscinny a collaboré avec Mad et était très ami avec Kurtzman. Donc, quand je me suis pointé à Pilote, j'avais débuté dans la toute petite presse pour tout petit, dans Vaillant. qui est devenu Pif Gadget maintenant, où j'avais fait Gailuron. Et lorsque je me suis présenté à Pilote, Goscinny m'a proposé donc une série qui ne traiterait que de l'actualité, que des grandes, que de la télévision, de la radio, du cinéma, etc. Et sans héros. C'était surtout ce qui était caractéristique dans cette série. Et qui était d'ailleurs...
Des petites scènes de la vie quotidienne.
Un peu, oui, des choses. Surtout, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y avait pas de héros. Et à l'époque, c'était en 65, les dingos dossiers. À l'époque, c'était dans la bande dessinée, ça ne se faisait pas.
Et ce qui ne se faisait pas non plus, c'était de se moquer gentiment des scouts. Par exemple, et Gottlieb, qui n'a jamais été scout, l'a fait avec sa série Hamster Jovial et ses louveteaux, conçue pour le magazine musical Rock et Folk.
Le rédacteur en chef de Rock et Folk, Philippe Quéclin, m'a demandé une page pour une revue de pop musique. Bon, mais moi, j'adore ça, j'écoute beaucoup de disques, surtout à l'époque. Mais enfin, on ne peut pas dire que je sois un spécialiste. Alors j'ai eu cette idée de faire... Tant qu'à ne pas être spécialiste, autant aller à fond et faire quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec la pop musique, à savoir le scoutisme. C'est comme ça que j'ai proposé un personnage de scout, l'espèce d'adolescent ou d'adulte attardé, avec ses louveteaux, qui veut toujours être dans le coup et qui, en réalité, il connaît pas grand-chose, mais enfin, il est plein de bonne volonté, il essaye d'être dans le vent et il essaye d'éduquer ses louveteaux. De façon moderne, et notamment au niveau de la musique. Alors évidemment, ça jouait sur les conventions musicales et toute cette mode qu'il y avait à l'époque. Au début, ça n'était que musical, et puis après, ça s'est un peu élargi. Il y avait des problèmes de rapport éducateur et enfant qui venaient se greffer là-dessus. Et puis ça a duré le temps d'un
pas très
livre.
Moral, tout ça, hein.
Ah, ça dépend ce que vous appelez la morale.
Je veux dire, pour les scouts.
Ah non, les scouts, je ne sais pas comment, s'ils ont apprécié ou pas. J'ai jamais eu de répercussions désobligeantes de leur part. Même que j'ai fait figurer Baden Powell en personne dans l'une des histoires. D'ailleurs, l'album lui est dédié. Hein.
On peut respirer alors, hein. C'est certainement pour ça que le monde des scouts n'en a pas voulu à Gottlieb. Moi, j'ai adoré réentendre son magnifique accent parisien à Marseille. Gottlieb, qui nous a quittés en 2016 à 82 ans.
Eh oui, et avec qui j'ai eu la chance de passer une très belle soirée chez notre ami Frédéric Jeannin.
Moi
il y a
aussi,
quelques années.
Moi c'est un après-midi, il y a
voilà.
Quelques années aussi.
Allez, on passe à la suite.
Galaxy BD sur la première.
Et voici le moment de parler du choix de Sam, le livre de notre deuxième invité, Nicolas Pitz. Nicolas, vous êtes bruxellois, vous faites partie de l'atelier 1000, dont Clara Wiertz est venue nous parler ici même il y a quelques semaines. Ces dernières années, vous avez publié plusieurs adaptations de romans jeunesse. Il y a eu entre autres Les Vous et Jusqu'ici tout va bien, qui a eu un gros retentissement. Alors là, vous publiez un roman graphique, lui aussi inspiré d'un roman, Le choix de Sam. Pourquoi cette volonté de faire œuvre à partir de l'œuvre des autres?
Parce que j'adore ça, en fait. J'adore adapter des trucs. Je trouve ça trop bien. En fait, partir d'un roman, c'est comme une espèce de... On ouvre un livre, on le bouffe, on tombe amoureux et on le fait. Quand je dis on le fait, c'est genre... en fait, je vois plein d'images. Donc, c'est mon boulot de faire des images. Quand je lis des livres, j'arrive pas de voir des images tout le temps. Et il y a des trucs que j'ai envie de dessiner. Et là, quand j'ai lu Le choix de Sam, en fait, c'est une histoire assez simple. Hein. C'est un enfant qui trouve... C'est des enfants qui trouvent un chien. Il y avait ma nièce qui me tannait depuis des années pour que je fasse quelque chose pour elle. Parce qu'elle dit « Oui, tu fais toujours des trucs avec des ados, un peu dépressifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux pas faire des trucs avec des poneys, des chiens, etc. Et » Et j'ai dit « Bon, bah, ok, bon coup, je le fais pour elle. »
Voilà. Et bien, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter ceci.
« Désolé de vous déranger. Je suis énorme, Snively. Je crois que vous avez mon chien.
Quoi ?»«
Mon chien. Son nom, c'est... Son nom, c'est... C'est bleu. Tenez. J'avais pris cette photo. C'est lui et moi. Vous voyez, je suis clown de profession. Vous voulez sans doute voir ces papiers.
Josh!
Vous avez reconnu Nicolas Pitts?
Non.
Non,
comme
hein.
ça, non, ça
je m'en doutais
pas.
Un peu. Un extrait de Air Bud, le premier de cette série de 5 films, hein, qui est signé Charles Martin Smith. C'était en 1997. C'est un peu la bande-son du film que vous faites sur papier, puisque bah, Emilia et son frère Kix adoptent un chien errant, qui a manifestement été battu en plus, et s'y attache très vite, mais le voisin, à un moment, vient revendiquer la propriété de ce chien qui serait à son fils et qu'il aurait pris chez lui. Et puis, bon, bah, le chien s'étant échappé, serait devenu celui presque des voisins, à part qu'il demande aux voisins une somme absolument astronomique pour conserver ce chien qui fait le bonheur de leurs deux enfants. Ça, c'est le pitch de cette histoire. Vous avez dit les vraies raisons pour lesquelles vous êtes passé à un, on va dire, un modèle plus jeune encore de roman. Mais c'est vrai qu'on sent une différence par rapport au précédent. Ici, on est vraiment dans l'enfance et même au-delà de l'enfance, il y a le côté très positif de cette histoire.
Ah ouais, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'en avais besoin. Après, jusqu'ici, tout va bien. C'était quand même une histoire assez plombante. Et j'avais besoin de couleurs. D'ailleurs, jusqu'ici, tout va bien, c'était plutôt en noir et blanc. Et là, je me suis déchaîné. Je me suis dit, allez, j'ai besoin de couleurs et j'ai besoin que ça rayonne. Et c'est pour ça qu'un chien et les animaux, ça a toujours été... Je suis tatoué de partout. J'ai des animaux partout. J'adore ça. Et cette histoire, elle me touche parce qu'en fait, ça parle aussi de Sam qui choisit aussi les mômes. Donc, les mômes trouvent le chien, mais c'est aussi le chien qui trouve les mômes. Donc, c'est des trucs que j'ai eu dans mon enfance. Et puis, j'ai lu de la littérature comme ça toute mon enfance aussi sur des histoires d'animaux. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? J'aimerais bien en faire une aussi. Et quand j'ai lu le roman d'Edouard, ben, je me suis dit, allez, c'est super. C'est mon éditrice qui me l'a mis entre les pattes et qui m'a dit, tiens, lis ça un peu. Toi qui as envie de dessiner des animaux, ça va te plaire. Et bah, elle ne s'était pas trompée. J'étais très content de faire ce projet, de le dessiner, de le dévorer, de le croquer. Et c'est génial aussi de voir des mômes. Là, c'était la foire du livre. Et j'ai eu pas mal d'ateliers avec des scolaires. Et c'était super. Ils avaient tous lu, ils avaient dévoré le truc. Et du coup, ils étaient toutes... oui, moi aussi, je veux des chiens. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'ils sont tout petits. Parce que je rebondis sur ce que tu disais sur l'adaptation des livres. C'est qu'il y en a qui avaient déjà lu les deux. Et ça, c'est impressionnant. Très jeune. Donc à 11 ans... 11 ans, ils avaient entre 10 et, bref, petits. Et ils disent, ah oui, mais il y a plein de différences quand même. Pourquoi toutes ces différences? Et c'est super intéressant parce que comme c'est vraiment des gamins, ils sont hyper, hyper joyeux. Genre, ah oui, le chien quand même, il est pas comme dans le livre.
Mais c'est une bonne question ça. Pourquoi il y a des différences entre le roman d'Edouard Van de Vendel, un roman hollandais hein, qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, et votre bande dessinée?
Parce que j'avais envie de le dessiner comme ça, le chien. Et puis, comme je le faisais aussi pour ma nièce...
Dans le roman, c'est aussi un chien des Pyrénées blanches, je pense.
C'est ça, exactement. Et là, c'est plutôt un Irlandais un peu bizarre. Parfois, il a des bouilles à la Disney, un peu. Et en fait, tout ça, c'est aussi fait parce que c'était le désir de ma nièce. Et du coup, franchement, j'ai fait « Ok, je te fais plaisir jusqu'au bout ». Parce qu'elle a vu mes planches, elle a vu des trucs. Donc, c'était super chouette.
Et une des choses qui frappe, c'est la vie que vous mettez dans cet animal. Moi, j'ai l'impression qu'à part un autre auteur de Rue de Sèvres qui a fait un livre sur son chien, mais qui était déjà mort, c'est Françoise Keuten avec Jim. Personne n'a réussi à donner autant vie à un chien depuis très longtemps, Nicolas. On sent que vous avez pris plaisir à habiter ce chien.
Ouais, c'est trop bien. Comme je disais, j'adore les animaux. Et puis dans notre atelier, on en a deux. Et tous les chiens sont différents. Ils ont tous des caractères. Celui-là, je voulais qu'il soit dur. Enfin, il est dur, en fait. C'est un chien où on n'a pas envie de le caresser, à la base. Et je ne sais pas pourquoi ce môme, il voit ce chien, il a envie de le caresser, alors que moi, j'en vois un comme ça, je n'ai pas envie de le caresser, hein. Absolument pas. Il a l'air un peu pouilleux, il est trop grand, il est mal foutu, il est... je ne sais pas. Et c'est des descriptifs que je retrouve dans les chiens de notre atelier. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de les caresser, mais il fut un âge où oui, il y a des gens qui n'ont pas la même vision sur les chiens. Genre, il y a des poils, moi, qui me rebutent à mort. Et en fait, il y a des gens qui adorent ce genre de poils. Enfin, on rentre dans des détails débiles. Hein, mais... Et au niveau du dessin, c'est ça que je voulais retranscrire. C'est genre, ok, ces gosses sont fans de ce chien, comme ma nièce est fan du chien. Je vais faire comme si, alors que moi, je ne l'aime pas. Et c'était très, très drôle de le dessiner, parce que comme je ne l'aimais pas trop, c'est un genre de chien que moi-même, je ne voudrais pas avoir. Et je ne l'aurais jamais adopté, moi, ce chien. Jamais de la vie. Moi, j'ai peur des gros chiens comme ça, parce qu'il est énorme, donc voilà.
Dans votre dispositif graphique, il y a une chose qui était déjà présente dans d'autres livres, c'est votre manière de travailler la nuit, qui est assez personnelle, on va dire. Vous n'êtes pas tout à fait le seul à le faire, mais qui est vraiment très particulière. D'où ça vous vient, cette idée de travailler sur une forme de dessin tout à fait en noir et blanc, dans lequel il y a des rehauts de couleurs qui sont juste des lignes de couleurs, qui sont presque comme quand on dessinait sur ces ardoises avec un faux pinceau et qu'une couleur remontait, qui était déjà là avant.
La carte à gratter.
Est-ce que je l'expliquais bien ?
Tu l'expliques bien.
Voilà.
Franchement, la carte à gratter, c'était ça, en fait. C'était l'amour de ce papier noir pelliculé où on grattait et puis il y avait du blanc qui apparaissait. Ou parfois, même dans les années plus tard, il y avait même de la couleur. C'était génial de faire ça. J'ai toujours adoré faire de la carte à gratter. Il fallait une précision de malade. Et pour des anciens albums, je les avais fait directement à la carte à gratter. Donc l'idée, c'était de revenir sur ce truc que j'adore faire, en fait. Sauf que là, maintenant, tout est fait sur tablette, c'est fait sur Photoshop.
Fait à l'ordi,
ouais, c'est plus simple. Parce qu'évidemment, on peut regommer, on peut revenir sur ce qu'on fait, sur ses traits, etc. Mais je trouve ça très élégant. Et j'aime bien faire ça. Je trouve ça beau. Et puis, dans la narration, en fait, même les mômes, ils trouvent ça assez génial. Parce que ça fait un peu peur. C'est dans le noir. C'est des couleurs un peu violentes aussi, parfois. Il y a du bleu, du vert, des choses comme ça assez fluo qui ressortent. Et j'ai remarqué que sur les enfants, ça a un impact. Et j'aime bien.
Est-ce qu'on a une liberté totale quand on s'adresse à un public très jeune ? Ici, on est quand même sur les très jeunes.
Ouais, on est sur les très jeunes, donc on fait quand même attention à plein de choses. Dans le roman, par exemple, tu parlais du propriétaire, tout ça, mais le propriétaire, en gros, il fume clope sur clope, il boit de la bière, bref. Tout ça, j'ai un peu enlevé. Il y a un fusil, il est ultra violent au niveau même des textes. Le roman est plus violent que ce que j'ai fait en BD, parce que je me suis dit, tiens, ça va peut-être pas parler la même chose. Les enfants pourraient comprendre plus de choses via la BD, parce qu'il y a l'image, que dans le texte où il se dirait que je ne sais pas ce que c'est, du coup, je ne comprends pas, je continue la lecture.
Alors, il y a aussi, évidemment, cette question de la littérature en bande dessinée. Ce sont deux choses qui ont l'air d'être tout à fait sœurs, mais pas forcément. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre pour ne pas se tromper ?
Bah, il faut
que
faire
garder du texte ? Que garder de la langue ?
En fait, il faut déjà savoir faire de la bande dessinée sans adapter, en fait, pour se rendre compte ce que c'est que le boulot d'adapter. C'est un vrai travail, l'adaptation, parce qu'il faut savoir synthétiser. C'est tout ce que j'ai détesté faire à l'école. Genre, on va faire des synthèses, des résumés, des trucs comme ça, horribles. Et en fait, maintenant, je fais ça et j'adore ça, en fait. C'est très bizarre, hein, c'est un espèce de retournement de situation. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est quand on lit quelque chose, on va vraiment souligner ce qu'on va devoir garder, capter l'essence du livre, donc... Pour pas tromper. Enfin, quand on lit un livre, il y a toujours l'essence de l'auteur. C'est très bizarre de parler de ça comme ça, mais on sent ce que l'auteur veut dire, mais il y a aussi des trucs qui sont derrière. On sent qu'il aurait voulu dire ça, mais qu'il n'a pas pu. Et ça, il faut le capter aussi. Donc c'est aussi un boulot un peu de travail, d'arrachage. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on a parfois l'occasion de discuter avec eux et se dire là, en fait, c'est ça que tu voulais dire, non ? Parce que là, t'as pas...
Enfin, quelqu'un m'a compris.
Oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est très, très chouette de pouvoir avoir ce petit travail-là et d'avoir un impact. Et de se dire, moi, je peux y aller parce que du coup, j'ai un autre médium, je peux dessiner. Donc, il était comme ça, ça, c'était comme ça. OK, j'y vais.
Et les dialogues, ce sont ceux de l'auteur ou on s'autorise à transformer
On est obligé de transformer.
On est obligé
parce que sinon, c'est très littéraire. Le style littéraire, c'est pas le même médium, de nouveau. Donc...
Le roman, Nicolas, se passe au Canada, je pense. Vous avez peut-être déplacé l'intrigue aux États-Unis, c'est pas tout à fait sûr, mais on parle de dollars et les noms sont un peu américains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces décors gigantesques. Hein. Ça se passe dans une ferme noyée au milieu de collines. Je suppose que vous avez pris un plaisir dingue à dessiner ces décors très roses en plus. Vous les dessinez assez roses, ces collines roses. C'était chouette à faire, ces grandes planches avec ces grands dessins d'environnement.
Ouais, c'était super drôle. Et puis, en fait, ça se passe pas vraiment aux États-Unis, non. En fait, ça se passe en Nouvelle-Zélande.
Ah coup, oui,
mais c'est pas la Nouvelle-Zélande du Seigneur des Anneaux.
Ah non,
en fait.
C'est pas la même.
Ah non, pas du tout. Et il y a plein de petits clins d'œil à ça, justement. Il y a des petites erreurs et tout. Et ça, c'est trop bien de voir les gosses qui le captent. Et du coup, qui font, oui, mais là, alors, ah oui, d'accord. Parce que ça fait partie aussi du livre où, à l'essence du livre, on sait pas où ça se passe.
Ouais.
Donc on l'imagine l'Irlande, on imagine des choses. Et donc c'est un des trucs que les enfants me disent, genre, ah mais c'est pas du tout dans le même coin, il pleut, on dirait qu'il fait gris et tout, et là c'est tout rose. Et en fait c'est bien parce que ça c'est facile et puis c'est joyeux. Je voulais de nouveau que ça soit joyeux. Et que ça soit l'Irlande ou le Canada, bah, y a un côté quand même un petit peu tristoune. Surtout que ça se passe en automne, je pense, du coup j'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais envie d'un truc joyeux.
Prochain ouvrage, encore une adaptation ou il y a un moment où, vous allez
fini.
Faire autre chose?
Là, là, j'ai dit stop.
Vous avez refermé la bibliothèque de l'école des loisirs. Oui.
Non, on ne plus regarder.
Le prochain, ça sera tout de moi. Et écriture, scénario, tout, absolument tout.
Et il y a une raison?
J'avais envie de refaire de l'adulte et j'avais envie de faire une aventure pour les adultes. Donc un truc où ça y va. Ça envoie du texte. Je peux être parfois un peu rude dans ce que je dis. Du coup, j'avais envie d'écrire comme je parle. Et là, à force de faire de l'adaptation jeunesse, on finit parfois par plus trouver sa propre voix. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me retrouver moi-même dans un truc que j'avais vraiment envie de faire qui sortait de mes tripes.
Merci Nicolas Pitz. Le choix de Sam, donc c'est le titre de cet ouvrage, paru chez Rue de Sèvres sur la base du roman d'Edward Van de Vendel. Gorian Delpature va vous proposer encore une petite lecture, Nicolas et Camille, si vous ne savez pas quoi lire cette semaine.
Oui, je ne sais pas si vous aimez les comics, les BD de super-héros, tous les deux. Ça vous plaît? Ça vous tente? Bon, en tout cas, moi, je peux être coupable.
Ça n'a pas l'air d'être...
Ça n'a pas l'air. Mais moi, j'aime bien, et je suis sûr que là, derrière le poste de radio, il y en a aussi. Et là, je viens avec une grosse sortie super-héroïque, la réédition de All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. C'est chez Urban Comics. Vous le savez peut-être, Superman va faire son retour au cinéma cet été, un film très attendu de James Gunn. Eh bien, le scénario de ce nouveau film s'inspire non pas de l'histoire, mais des thématiques de cette BD All-Star Superman, parue à l'origine entre 2005 et 2008, elle nous présente un Superman condamné à mourir. Eh oui, l'homme d'acier va mourir, il le sait, et il va passer ses derniers moments sur Terre à la réalisation de 12 travaux surhumains, comme un Hercule des temps modernes. C'est une BD très touchante qui revisite les grands mythes des classiques de l'histoire de Superman, et c'est une BD britannique sur ce grand héros américain. Le scénariste Grant Morrison est anglais et le dessinateur Frank Quitely est écossais, ce qui donne un regard neuf sur ce mythe américain qu'est Superman. En attendant le film au cinéma cet été, lisez All-Star Superman de Morrison et Quitely, c'est chez Urban Comics et vous aimerez même si vous n'aimez pas les histoires de super-héros, les amis.
Merci Gorian. Alors moi je vous propose cette semaine de la bande dessinée hors piste, parce que ça fait du bien aux yeux et au cerveau d'aller voir ailleurs si certains y sont et si on y est. Alors les éditions Tanibis proposent à la fois une nouveauté et une réédition d'un auteur qui aime interroger le médium. Cet auteur s'appelle EMG. La réédition c'est Tremblay Enfance Z46 et la nouveauté, alors là tenez-vous bien parce que c'est très radiophonique, ACIAE. Z79. La spécificité de son travail, eh bien, un travail qui est présenté au format italien à l'horizontale, c'est de proposer des personnages assemblés avec des morceaux indépendants les uns des autres, un tronc, quatre tubes pour le haut et le bas des jambes, une boule en suspension pour la tête, des personnages qui ressemblent à un petit théâtre de Playmobil en fait, et qui ont en plus l'originalité de s'exprimer dans des phylactères en 3D, dont deux, voire trois des côtés sont utilisés pour les textes. Phylactères qui, en passant, peuvent prendre à peu près toutes les formes. Il y a des carrés, il y a des ronds, enfin, il y a à peu près tout. Si je vous dis qu'en plus la nouveauté ACIA Z79 se déroule en costume et propose de sonder les affaires de cour d'un monde impérial imaginaire, le Triple Empire, et que les numéros de page sont comme passés au shaker, eh bien vous avez une petite idée de ce qui vous attend à la lecture de ces ouvrages expérimentaux. Je rappelle donc l'éditeur Tanibis, Tremblay Enfance Z46 et ACIAE Z79 de EMG. Donc. Et puis, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire des bandes dessinées un tout petit peu expérimentales, il y a ceci, Regard. Alors c'est moins expérimental, en tout cas, il y a pas de phylactère en relief et en 3D ici. C'est une bande dessinée que l'on doit à J. Personne, on ne connaît pas son prénom, J. Personne, chez Glénat, et qui a tenté un défi impossible à relever, celui d'une vision subjective de ce que c'est que perdre la vue. Alors en bande dessinée, on se dit c'est impossible. Ben, il y arrive en jouant sur des outils graphiques un peu différents les uns des autres. On va passer à certains moments d'une impression d'être dans le noir à une autre, où on se souvient de ce qu'on a vu quand on voyait. Le personnage principal, c'est un personnage d'un jeune garçon qui est justement cinéaste, donc la vue est prépondérante, c'est parmi les sens celui qui lui importe le plus évidemment, et qui, à la suite d'un accident de voiture, se retrouve privé de ce sens. Alors, il est convaincu, dans une forme de déni un peu d'ailleurs, qu'il va retrouver, recouvrer ce sens et la vue. Il est convaincu que ce n'est que pour un temps, et au départ, il ne veut pas s'adapter. Il tente simplement de ne pas se faire mal. Mais très vite, eh bien, il doit se rendre compte que c'est impossible de ne pas se conformer à tout ce que les aveugles vont devoir, comme lui, faire pour se débrouiller dans la vie. C'est un livre plein de trouvailles à la fois visuelles et narratives, mais aussi plein d'humanité, que ce regard qu'on referme en se disant « eh ben, il fallait le faire et il l'a fait ». Alors, côté agenda, pour terminer, avant de se quitter, deux propositions cette semaine. Bah, tout d'abord, l'expo « Germain et nous » de Fred Janin à la Galerie Champaka jusqu'au 29 mars, rue Ernest Allard à Bruxelles. Alors vraiment, pour l'avoir vu, je peux vous dire que le nombre de planches mythiques qu'il y a dans cette expo est absolument effarant. Et puis, l'illustrateur et auteur de bande dessinée Stéphane Trappier, avec sa première exposition bruxelloise « Dialogue de sourds », c'est à voir à la librairie L'Imaginaire jusqu'au 4 mai.
La première, 17h-18h, Galaxie BD, Thierry Belfroy.